génial. Soyez les bienvenus avec Elina Cadeau, vous avez
bonjour à tous.
Joséphine Bra.
Bonjour.
Daniel Morin.
Bravo Daniel.
Albert Agou.
Bonjour.
Et nos invités sont Catherine Yégène et Bruno Petit-Luc.
Bravo.
Non mais vas-y, vas-y, Bruno, utilise bonjour à l'antenne. Installe-toi, merci d'être à ce rendez-vous pour parler de votre maman, la nouvelle pièce de Jean-Claude Grimbert, Catherine Yégène et Bruno Puzzulu. Déjà, première question, est-ce que tout va bien? C'est bonjour. La première chose. Bonjour, tout va bien?
J'avais vu le ciel.
Le soleil, vous voulez dire?
Le ciel, les arbres, les petites feuilles.
D'accord, donc elle n'a pas envie d'être dans le studio de radio. C'est clair.
Quelle chance pour un arbre.
Père Albert, avez-vous compris pourquoi nous avons invité Catherine Yégène et Bruno Puzzulu?
Écoutez, mon cher Nangui, si j'osais me confesser, je vous dirais bien qu'il m'est arrivé plus d'une fois, c'est encore le cas aujourd'hui, d'être sur le point de céder à la tentation et de vous administrer une fessée. Afin de vous empêcher de me poser chaque semaine la même question. Car oui, je sais que nous sommes là pour évoquer votre maman, la pièce de Jean-Claude Grimbert, grand dramaturge, que viennent nous présenter Catherine Yégène, bonjour Catherine, et Bruno Puzzulu, coucou Bruno. Un titre qui me plaît bien, même si j'eusse préféré que la pièce s'intitulât « Votre papa, votre maman, votre papa, votre maman », histoire d'attirer mes amis de la manif pour tous. Comme je sais que vous comptez sur mon pchit pour faire illusion, Nangui...
Le pitch, mon père.
Mu par l'esprit de charité, je vous le donne sous la forme triptyque aussi lapidaire qu'efficace. C'est l'histoire d'un fils, d'une maman et d'une maison de retraite.
C'est pas mal.
Voilà.
C'est
pas un mal. Monde que je connais bien, car avant d'exercer mon sacerdoce auprès des jeunes en recherche, j'ai longtemps été aumônier à l'hospice des vieux glands, où j'ai connu notamment le maréchal Ganache. J'ai tiré une leçon de cette expérience. Si jamais vous deviez séjourner dans un de ces établissements, la condition sine qua non de votre survie serait de vous en évader, ce qui n'est pas toujours facile, je le concède. Pour ma part, j'aidais mes seniors à fuir la tristesse de leur quotidien en organisant des après-midi récréatives avec des attractions formidables. J'avais fait venir ainsi les kakamikazes, des funambules japonais qui voltigeaient sur les perfusions et les sondes urinaires et qui terminaient leurs acrobaties par un plongeon dans une baignoire à porte. J'avais aussi programmé Parkinson, un lanceur de couteau au coréen, qui ne faisait pas ses 97 ans, et quand les yeux bandés, d'une main tremblante, il s'apprêtait à planter ses poignards autour de la plus vieille pensionnaire choisie comme cible vivante. Quel suspense! Enfin, pour détendre l'atmosphère, je faisais entrer les clowns Pipi et Popo, qui au lieu de se lancer des tartes à la crème, se balançaient des couches. Un gag désopilant qui a malheureusement provoqué le décès de nombreux pensionnaires, morts de rire en avalant leurs dentiers, et mon licenciement. Voilà, vous connaissez un peu mieux mon parcours, hein, singulier. Dans certains épisodes, me conduisent à me flageller régulièrement avec des orties fraîches et printanières, remarquées par notre invité tout à l'heure. Ce que d'ailleurs je cours faire dans ma camionnette à l'instant, non sans vous avoir souhaité une bonne émission.
Trop aimable, merci Albert Agou.
La bande originale, Lady. Sur France Inter.
Jean-Claude Grimbert, en effet, signe une nouvelle pièce. On avait parlé la dernière fois de L'être ou pas, qui était revenue aussi au théâtre, qui est une pièce qui revient régulièrement, et tant mieux, quel que soit le casting. Là, c'est pas une reprise, c'est une création, Votre maman, mise en scène par Charles Torgeman, où vous êtes vous, Catherine Yégène, la maman en question, qui est dans
une
maison de retraite. D'ailleurs, il n'y a que trois personnages. Le directeur et la maman et le fils, hein, si j'ai bien
aussi.
Compris.
Non, il n'y a pas.
C'est pas une infirmière.
Non, infirmière
non, il y a. À la fin, il y a un gendarme.
Voilà, ouais, c'est ça. Gendarme, parce que. On peut tout dire ou pas, je sais pas à quel
oh,
point.
Oui, on peut tout dire, parce que.
Elle se sauve.
Elle va se sauver et en mourir.
Bonne journée à tous. Non, mais en même temps, c'est pas tant l'issue de l'histoire qui compte dans ce texte-là
qu'on
a lu.
C'est comme le bonheur.
Que le chemin.
L'important, c'est le chemin.
Qu'ils vont faire ensemble. Absolument. Ou ne pas faire ensemble.
Alors justement, elle est dans cette maison dès le début. D'ailleurs, le premier flottement, c'est la connaissance ou la reconnaissance entre presque un qui êtes-vous. C'est-à-dire qu'on sent qu'elle est en train de perdre la tête.
Oui, c'est un. Je ne sais pas si c'est Alzheimer, je ne sais pas.
Ça y ressemble.
Ça y ressemble, mais je n'ai pas envie tellement de trouver une réponse médicale. Je préfère trouver une réponse traumatique, puisque cette femme a connu les camps, et elle y a perdu sa mère, et elle y a perdu sa sœur, elle y a perdu beaucoup de monde, comme malheureusement le destin de beaucoup de juifs pendant la guerre, et je pense que c'est plus une raison traumatique qu'une raison clinique. Oui. Enfin, ça ne m'intéresse pas tellement de témoigner sur Alzheimer, ça, ouais. Parce que je vais oublier et je ne vais pas le faire.
Ça, c'est fait. Bruno Pizzulu, vous êtes le fils désemparé de voir sa maman commencer à partir par l'esprit et en se disant, mais qu'est-ce que je peux faire? Elle me confond avec le directeur, elle appelle le directeur mon fils et moi, elle me regarde en disant, qui êtes-vous? Ce qui doit être dramatique pour
Oui, tous les jours, vous. Je suis toujours reçu par le directeur, quand je viens voir ma maman, qui me dit « votre maman ». Alors là, je m'attends toujours au pire. Alors c'est une fois, votre maman a tapé une autre pensionnaire, une fois, votre maman est assise sur une chaise, elle veut plus se lever, et...
Mais elle tape l'autre pensionnaire parce qu'elle a droit à ses toilettes privées, et oui. C'est pas des toilettes publiques, voilà. Et il n'y a aucune raison que cette autre-là vienne pisser chez elle.
Et moi, je défends ma maman. Oui, je dis, si elle a tapé sur quelqu'un, c'est qu'il y a une raison. Donc, il faut connaître la raison.
C'est une histoire qui est une histoire d'amour et malheureusement ça ressemble à des histoires que doivent vivre certaines personnes qui nous écoutent, qui au quotidien doivent comme ça accompagner leur maman ou leur papa qui perd un tout petit peu la boule. Sauf que là il y a quelque chose en effet en plus, il y a tout le passé qui ressurgit et qui va même l'aider dans sa fuite, parce que si elle s'enfuit c'est qu'elle va revivre des scènes qu'elle avait vécu ou
elle
que sa famille avait
sa mère vécu. Parce ouais. qu'elle l'a pendant la grande marche, la longue marche, mm-hmm. elle a dû l'abandonner. Elle a jamais réussi à la relever. Et c'est cette... Mais alors, on a l'air de dire que c'est de l'eau qui est noire. Mais ce que j'aime, moi, personnellement, et c'est toujours un peu ça dans l'univers de Grimbert, il y a un humour, il y a une tendresse humaine, il y a surtout un humour. Moi, je pense que c'est. Que j'espère, enfin je touche du bois, que les gens souriront et riront et nous accompagneront tous les
trois.
Je
pense que oui, parce que on est dans une sorte de quiproquo très théâtral, parce que l'incompréhension qu'il peut y avoir entre le directeur, le fils et la maman aide justement à ce genre de situation. De
oui, puis elle a beaucoup de ressorts.
Elle a beaucoup
de répartie,
sa petite maman. Elle a beaucoup de répartie.
Elle a beaucoup de ressorts, elle a beaucoup d'énergie. D'ailleurs, elle arrive à frapper les gagas qui l'embêtent, et donc elle est...
Ah, ça te va bien, ce rôle.
Joséphine,
parapluie, c'est ça?
Par oui. rapport à l'humour, c'était surtout, je trouve qu'il y a une mécanique d'humour absurde qui, du coup, se crée avec ce malentendu qui n'en finit pas. C'est dans la gamme d'humour, en tout cas, moi, ça m'a fait penser à d'autres auteurs.
À Ionesco, par exemple.
Ionesco. Qui manie bien
par
cet humour-là.
Côté, oui, c'est différent, mais...
Vous savez,
pour citer un
quand,
grand
on va, quand on visite les gens comme ça, de notre famille, on s'attache toujours au moindre moment de lucidité. Donc, même si ça paraît partir dans tous les sens, on se dit « Ah !» Il y a encore moyen de parler un petit peu. Il y a encore de la vie. Il y a encore moyen d'aligner deux phrases. Donc, on s'attache à ça. Et à chaque fois que ma maman me dit quelque chose, je m'attache à ce qu'elle dit pour pouvoir encore tirer de la vie.
Alors, pour aider justement ce genre de situation de quiproquo, d'absurdité, il y a la vitesse des dialogues, moi, qui m'a frappé, qui doit être une gymnastique absolument dingue pour vous en termes de travail et de répétition, parce que ça se joue, il y a des répliques qui n'ont qu'un mot. C'est-à-dire que là, il y a vraiment un rythme, une musicalité, je pense, dans le jeu qui est essentiel pour l'effet.
Pas facile à apprendre.
Hein. Ah non, ça.
Il y a plus dur à apprendre que quelqu'un qui perd la boule.
Et pourtant, vous vous êtes frotté à des textes très longs, très compliqués.
Ah, c'est pas une question de longueur, c'est que généralement, c'est vous avez la logique de la réponse de l'autre pour trouver la vôtre.
Oui,
tandis que là, il faut se construire un monde parallèle. Donc il faut.
Donc il y a ça. Il y a
un rythme propre logique qui est perturbé.
Voilà. Donc il faut que je me fasse un monde parallèle. Je reconnais, je reconnais pas. Je parle d'autre chose parce que j'ai pas envie de parler de ce qu'on a envie de me parler. Enfin, c'est
mais quand je disais que ça va vite, je évidemment,
c'est vrai que ça va vite.
Évidemment pas plagier, mais c'est vraiment le rythme, c'est directeur, oui, quoi, où, là, parce que là, ça va.
Quel comédien,
c'est musical.
C'est ça.
Hein.
Non mais ça va vite.
Mais en même temps, il y a des trous et le danger, c'est que quelquefois, nous, on se On s'immerge dans ces trous et le texte ne vient plus. On se dit, ouille.
Non, non, arrête.
Elle touche du bois.
Surtout Catherine. Hein,
ça veut dire, ça veut dire comment on apprend, comment le travail de comédienne et de comédien pour une pièce comme ça, ça ne peut pas être je n'apprends que mon texte. Vous êtes obligé d'apprendre toutes les répliques de tout le monde.
En général, de toute façon.
C'est le cas de toutes les pièces, franchement.
Très souvent, moi, de toute façon, peut-être pas au départ des répétitions. C'est d'abord sa propre partition, mais avec les répétitions.
À la langue.
Ah oui. On sait le texte de l'autre. Et d'ailleurs, ça permet de repêcher quand l'autre a un souci.
Oui, il vaut mieux être là en sécurité.
Oui.
Et vous, Bruno ?
Déjà, bon, je crois que pour Catherine, c'est pareil. Ce qui est bien, c'est d'arriver texte su. Mais même quand on arrive texte su...
À la première répétition, je vais
Dire.
Pas à la première représentation. C'est trop tard.
Mais ça vaut mieux, oui.
T'es bête, maman. même quand on arrive texte su, avec la voix des partenaires, les premières répétitions, on ne sait plus bien où on en est. Alors, il y a vraiment intérêt d'être costaud, parce que là, j'imagine déjà la première, Catherine ayant un trou, moi, après un trou...
Mais je n'en aurai pas de trou. D'ailleurs, ce n'est pas une maison de retraite, parce que ce n'est pas pareil. C'est une maison médicalisée.
Oui.
C'est pire.
Non, c'est pas une maison médicalisée, c'est au théâtre de l'Atelier que ça se passe.
Ah bon ?
Elle est tellement dans son rôle.
Ouais, elle y est déjà.
Ah bon ?
Ouais, c'est au théâtre de l'Atelier, le quartier est charmant.
C'est où ?
À Montmartre. Pigalle, place Charles Dulin.
Ah, mais c'est qui ?
Pigalle à Montmartre.
Ouais, on vous emmènera.
Et c'est à partir du 19 avril, le travail que vous faites en ce moment est un travail quotidien de toutes les après-midi, vous êtes dans le décor, vous travaillez, vous répétez, comment ça se passe ?
On n'est pas dans le décor encore.
Ah, pas encore, pardon.
On est dans le décor le 4.
Alors justement, le décor, moi je me suis posé plein de questions parce que nous on a lu le texte.
Je sais toujours pas ce qu'ils font, hein, mais...
De quoi ?
Non, je veux savoir ce que vous faites là pour travailler, pour la semaine.
On est en salle de répétition avec un pseudo-décor dans lequel on essaie de... Bon, alors on favorise le texte, mais c'est vrai que tout va changer
à partir du 4 avril. Est-ce que ce sont des Italiennes ? Est-ce que vous avez déjà des directions ? Comment ça se passe ?
On fait comme des professionnels.
Non, on joue. On est sur le plateau de répétition.
Et vous jouez.
Et on attend avec impatience d'arriver dans le véritable décor.
Et alors, comment on habille un texte comme celui-là ? Parce que à la lecture, déjà, je trouve qu'il est déjà suffisamment fort. À quoi va ressembler, justement, la scénographie ?
Est très, très symbolique et très simple. Ouais. Elle ne peut pas être réaliste si elle est réaliste, c'est insupportable. D'abord parce qu'il y a un parc, il y a un jardin.
Oui, il y a beaucoup de lieux.
On n'en sort pas, quoi. Et puis, il fait un budget énorme. On n'a pas.
Il faut, c'est ça. Mais
là. T'es pas bien payé, toi. C'est... Oh, les salauds.
À partir du 19 avril prochain, donc, Votre maman de Jean-Claude Grimbert, qui a une plume, qui a une patte, qui a un sens de l'humour, qui joue, avec, justement, toutes à la fois le passé, le passif, le poids de l'histoire, mais en même temps aussi avec beaucoup d'autodérision et beaucoup d'humour, et de finesse et d'intelligence. Voilà,
c'est à 19h. Je dis ça pour les très vieilles gens.
Et puis c'est toujours bien à entendre quand même ce texte en ce moment parce que la bête gronde, hein, on est dans une période d'élection, mais et malgré le petit problème neurologique de ma maman, elle n'a pas oublié ce qui s'est passé il y a des années. Et c'est peut-être la seule qui a de la mémoire.
Elle n'a pas envie de le voir revenir. Il faut pas oublier. Parler de la période actuelle.
Voilà. À partir du 19 avril, vous avez raison, 19h du mardi au samedi, matinée à 16h au théâtre de l'Atelier Votre Maman. Et vos oreilles, Leïla, ont sifflé quand on vous annonçait la venue de Catherine Yégel et de Bruno Puzulu. D'ailleurs, c'est la première fois que Catherine vient dans cette bande originale. Et ça fait déjà plusieurs fois que vous venez, Bruno.
Ah oui, c'est la première fois. Non, c'est votre première fois, vous aussi, dans la bande originale.
Non, avec
Bruno.
Avec vous.
Oui.
C'est la première fois.
Donc, dans la bande originale, c'est la première fois.
C'est la première fois ? Mais, ah bon, oui, c'est
Non, il me semble pas. Non.
Alors, qui a Alzheimer, là?
Moi, j'ai vu Catherine cet été, voilà. Mais c'était une autre émission.
Bon, on a déjà fait des émissions ensemble. D'accord, mais pas celle-ci.
En tout cas, quand je pense à vous, Catherine...
La mémoire.
Oui, la mémoire. Voilà.
C'est foutu.
Justement, je suis allée chercher dans ma mémoire, et puis surtout dans votre bio. Quand je pense à vous, Catherine, je vous entends rire.
Viens, mon poussin, viens valser avec papa. Viens, mon poussin chéri, viens dans mes bras. Viens apprendre à valser avec papa. Profitons-en, maman n'est pas là. Viens, maman chéri, tournera.
J'ai 7 ans.
Alors, vous nous expliquez, Catherine Yégel, quelle est cette chanson? En quelle année on est? Comment vous vous retrouvez 7 ans, à alors, être attendez, cette voix, ce rire d'enfant?
46 plus 7, ça fait 53. C'est ça. Et c'est mon père, Pierre Yégel, était un homme de radio.
Un grand musicologue.
Évidemment.
Et était renommée, aussi le directeur absolument. Artistique de plusieurs grands chanteurs, dont André Claveau. Mm-hmm. Et enfin, je sais pas, mon chanteur préféré. André Claveau. Mais bon, donc...
Ça c'est dit, ça y est.
Ah oui, bon, je peux dire, on avait fait l'émission de...
La prescription.
36 chandelles de Jean Noa.
Jabone.
Voilà. Et avec cette chanson, et on valsait vraiment en scène, mm-hmm. et je peux vous dire, il avait les ongles longs et taillés, pointus, il me les a enfoncés dans les bras, il détestait les enfants.
Et vous lui rendez bien.
Ah, il est mort. Mais
là, vous aviez quoi, 7 ans?
J'aimais pas trop 7 ans. Bon, j'avais 7 ans.
Il y a de la famille autour de la table, quand même.
Ça m'étonnerait, il n'a pas eu beaucoup d'enfants, cet homme-là. Et donc, papa m'a... Ben oui.
Papa.
Pas vraiment. Des amis, mais pas. Bon, et.
Des neveux.
Catherine.
Des neveux qui changeaient régulièrement.
Quoi,
Catherine.
Bah, Liva, c'est un souvenir d'enfance, elle a le droit de dire
non,
qu'elle a été traumatisée.
Non, c'est pas un souvenir d'enfance, c'est un outing, là. C'est la
et papa m'a demandé de faire la petite qui rit. Et donc, j'ai pas enregistré vache, seul, parce que Claveau avait enregistré sa chanson. Et moi, j'étais en studio, toute seule, chez Pathé Marconi. Et clac, à chaque fois que je devais rire, mon père.
Vous pointez du doigt.
Me désignait de la cabine, à toi. Et j'avais une phrase à la fin, tu sais papa je dors pas, que quand même une merveille. Et
vous riez sur comment Claveau.
Voilà, à et donc les journaux de télé, de disques de l'époque, on m'appelait la petite qui rit au doigt et à l'œil. Mais à l'œil c'est vrai, car moi j'ai pas gagné un rond.
Ah, c'est
mais
vrai.
Une poupée très laide, très grande, trop grande pour en faire un enfant.
Oui, oui.
Mais dans la pièce on lui fait signe aussi quand elle doit parler.
Oui, quand on doit parler.
J'ai retrouvé des pochettes comme ça.
Apparemment, elle est à l'œil aussi.
J'ai retrouvé des pochettes avec André Claveau et la petite Catherine Yégel.
Oui, elle est petite.
Et c'était donc une première en tant que comédienne aussi.
Oui, puis alors à l'époque, à la télé, on maquillait pour le noir et blanc très foncé. Et ça avait fait un gros problème parce que quand je suis rentrée de la télé, je voulais plus me laver la figure pour que mes copines à l'école voient que j'avais du maquillage. Et ma mère me poursuivait avec un gant de toilette. Enfin. Un traumatisme d'enfance.
C'est ça, ouais. Le gant de toilette, les ongles pointus d'André Claveau, oui. C'était voilà, les 7 ans de Catherine Yégel.
D'ailleurs, pardon, une question. Est-ce qu'on se maquille au théâtre? Parce qu'on parle du maquillage pour le cinéma, pour la télévision.
Oui.
Est-ce qu'on met de la, je sais pas, du fond de teint
Ça dépend des rôles.
Moi, je me maquille pas.
Nagui demande ça parce qu'il se maquille à la radio.
Non, c'est d'origine, c'est l'avantage.
Il y en a qui se maquillent quand il va au théâtre.
Ça dépend des rôles, parfois même on fait des cicatrices au théâtre.
Non, mais je parlais du maquillage de scènes, télévision et autres. Vous
on
maquillez,
maquille,
et pas,
oui.
pas Bruno.
Non, non.
Pas Bruno.
Mais là, pour votre moment, je vais sûrement pas en mettre une couche.
Oui. Et quand je pense à vous, Bruno, je pense à Johnny Hallyday.
Je sais bien que les années passent, les gens me parlent du passé. Je sens bien que le temps me chasse, c'est difficile à supporter.
La fuite du temps, les proches qui disparaissent, si on regarde bien les paroles, c'est l'inéluctable terminus de la vie. C'est un texte que vous avez écrit pour Johnny Hallyday.
Oui, un peu par hasard. On était, quand il avait son restaurant, le Balzac, un jour, vers 3h du matin, on finit de dîner ensemble.
Ouais, c'est l'heure.
C'est l'heure.
C'est l'heure.
C'était l'heure. Et quand on s'est quitté, il m'a dit « j'aimerais bien une chanson qui ressemblerait à notre conversation ».
Petite imitation.
Et je suis rentré chez moi.
Une chanson qui ressemblerait à notre conversation. Ça veut dire que vous aviez une chanson justement sur la
non,
mort ou
on,
le...
Non. Oui, on avait une conversation sur le temps qui passe, sur la mort. Et puis, il m'a dit ça sans me demander une chanson. J'écrivais pas de chanson. Je suis rentré chez moi et dans la nuit, j'ai écrit cette chanson et je lui ai filé le lendemain. Et la nuit d'après, il m'a rappelé en me disant « Je vais la chanter, elle sera sur mon prochain album. » Et puis voilà.
Vous l'avez écrite sans musique ?
Ouais, sans musique. Ouais.
Et comment on aborde ça? Parce que c'est la première fois que vous écriviez une chanson. Vous êtes dit juste, bon, je tente le coup. Ça se présentera pas 20 000 fois dans ma vie que Johnny me dise, tiens, écris-moi
après,
une chanson.
Après, quand ils ont enregistré la chanson, Yvan Cassar m'a rappelé, il m'a envoyé la musique. Il m'a dit, tiens, si tu pouvais adapter telle ou telle partie. Et j'ai fait des modifications. Mais c'était émouvant pour moi d'entendre l'idole sur ce que j'avais écrit.
Et est-ce que vous avez récidivé depuis? Est-ce que vous vous êtes relancé dans l'écriture de textes que vous proposez?
Oui,
Oui, parce que j'ai fait un album et puis là, je prépare le deuxième. Donc voilà.
Non, vous chantez.
Ouais.
Ah.
Ouais.
Et alors quel pas. Genre de musique ça va être ce
deuxième
album?
C'est plutôt plus calme que ça là, ce qu'on vient d'entendre. je sais pas. Par exemple, j'ai fait une reprise d'Alain Leprest. J'avais fait une reprise d'Yves Simon. Voilà. Quel drôle de monde.
Ah bah voilà.
Quel drôle de monde. Si on voulait, si on voulait. Excusez-moi, je suis rabat-joie.
Et à propos de Johnny, vous avez encore des nouvelles, des contacts avec lui, parce que on sait que malheureusement il a une vie dissolue en termes de consommation de tabac et autres. On s'inquiète. Dernière fois, ce micro, Claude Lelouch nous a dit c'est un battant, c'est un combattant. Je m'inquiète pas pour lui, mais voilà. On aime Johnny. On aimerait que tout aille bien.
Bah,
avez-vous
pas
des nouvelles?
Non, j'ai pas de nouvelles récentes, mais moi je suis sûr qu'il va s'en sortir, oui, parce que il devrait être mort depuis longtemps, Jojo, et là, c'est pas un petit cancer de merde qui va l'arrêter. Hein. Non, non.
C'est ce qu'on souhaite, sortir. En tout cas. Ouais. La pièce s'appelle « Votre maman ». Elle sera à partir du 19 avril à 19h au Théâtre de l'Atelier, incarné par Catherine Yégel, Bruno Puzulu et Philippe Fretin, qui jouera le rôle du directeur. Je ne l'avais pas encore cité, pardon. La mise en scène signée Charles Torgman. Voici l'humeur de Joséphine Dray.
Alors aujourd'hui, je suis d'humeur nostalgique, voilà, à cause d'une rencontre que j'ai faite une nouvelle fois dans un Uber Pool, le service de VTC où on partage sa course avec des inconnus. Alors je sais, ça fait 2 semaines que je parle d'Uber, mais bon,
tu rencontres du monde.
Maintenant que France Inter passe autant de pubs que Fun Radio, je m'emmerde pas, hein. Et j'espère même avoir un petit geste commercial de leur part. Mais oui, quand j'avais fait une chronique sur Samy Nasseri, j'avais eu droit à mon pot en chenouf quand même. On a bien le droit à quelques cadeaux de temps en temps, c'est mon petit côté fillon, voilà. Et donc oui, je prends des VTC parce que j'en peux plus du métro. Voilà, c'est sombre, c'est sale, on est à l'étroit. On est un peu comme dans un cul, en somme. Donc, je monte dans la voiture.
Oh non.
Et il y avait déjà... Ça va, c'est fini. Tout ce qui est grivois, c'est terminé.
Merci.
Maintenant. Je monte dans la voiture et il y avait déjà une passagère d'un certain âge. Alors, un certain âge, ça veut dire un âge entre Daniel Morin et Albert Algou.
Oh.
Voilà, une femme qui a vu débuter Nagui sur Radio Galère, on va dire, à peu près. Alors, en bonne parisienne que je suis...
Moi, je m'en vais.
Tu te sens visée ou quoi?
Qu'est-ce qui se passe?
Ah bah non, je vais prendre un café.
Ouais, on s'en va. Ouais.
La répétition est foutue, c'est malin.
Voilà, c'est en direct, on rappelle quand même. Donc je suis dans le Uber avec cette dame en bonne parisienne que, pour lui signifier que j'ai pas envie de discuter, je demande au chauffeur de mettre la radio. Cette année-là. Et d'un coup, la mamie s'exclame oh, c'est le nouveau 45 tours de Clo-Clo, mettez plus fort! Ah non, madame, c'est Matt Pokora qui chante Clo-Clo, vous entendez? Pour preuve, vos oreilles devraient saigner d'une seconde à l'autre. Et puis surtout, Clo-Clo, l'ampoule et paf, feu Clo-Clo. Et elle de répliquer « Ah bon ?» Et je me dis que mamie a fait son changement d'heure, mais qu'elle a dû mal régler son radio réveil. « Et vous allez où comme ça, madame ?»« Je vais danser le twist, comme au bon vieux temps. »« Oh, mais c'est le nouveau 45 tours de Clo-Clo ! J'espère le croiser au balajo !» Et là, je comprends que cette mignonne mamie est atteinte d'une maladie qu'on pourrait appeler Alzheimer. Et Odette, de son petit nom, m'explique que sa mémoire courte se fait la malle, mais que sa mémoire longue tient bon. C'est retour vers le futur, mais vers le passé, quoi. Puis vers le futur, et un peu le passé. Bonjour monsieur, et hop, retour vers le futur. Si seulement on pouvait choisir de ce qu'on veut oublier, quand même, ouais. Ce serait pratique. Moi, par exemple, je choisirais d'oublier 3 choses. Le jour où j'ai perdu ma virginité, le jour où j'ai perdu mes clés, et le jour où j'ai perdu mon grand-père. Je voudrais oublier ce que j'ai déjà perdu, finalement. C'est étrange, mais bon. En tout cas, Odette, ce soir, elle veut juste danser, picoler et tâter 2-3 paires de fesses en espérant pouvoir s'en souvenir demain. Vous admettrez que la différence entre une ado bourrée et une mamie malade peut être ténue. Par contre, madame, à Paris, pour l'éclat, c'est pas ça. On est en période d'élection, là. Les gens sont à cran. Hein. Oh, vous inquiétez pas, c'est Giscard qui va gagner, qu'elle me dit. Ah, bah, vous. Ah non, vous voulez dire Macron. Macron, c'est sa version 2017. Oui, un jeune centriste qui fait fantasmer les cheveux bleus autant que Laurent Romeschko en Damar. Et elle me dit, allons chez Régine, alors. Ah, mais elle doit être morte depuis longtemps. Ah non, madame. Elle existe toujours. Enfin, il y a une enveloppe corporelle et tout, mais des chercheurs sont persuadés qu'il y a plus de chances de trouver de la vie sur Mars que dans Régine. Elle me répond, vous êtes morose, vous les jeunes. C'était mieux avant. Je me souviens d'un humoriste qui nous faisait hurler de rire, Daniel Morin. Qu'est-ce que je donnerais pour être dans sa maison de retraite? Avec les vieux, c'était toujours mieux avant, comme par hasard, vous remarquez? Vous croyez que le mec qui survit à la peste noire en 1348, il allait saouler les autres en 1360? Oh, de mon temps, on savait vivre. Pas longtemps, certes, mais c'était mieux, hein. Non, je crois pas. Enfin, à chaque fois qu'elle répétait la même phrase, comme ça, j'avais l'impression de me voir, moi, quand j'apprends mon texte pour un tournage. Je le répète comme si je le découvrais pour la première fois. Ben, cette mamie, avec sa maladie, c'était un peu comme si elle rejouait sa vie, encore et encore, et franchement, elle jouait mieux que moi. Odette, c'était la comédie française à elle toute seule, quoi. La même justesse, la même sincérité, mais aussi la même odeur et le même répertoire en boucle. Et puis je la regardais, et puis je me demandais, mais moi, quand j'aurais son âge, je serais comment, moi? Déjà, j'aurais plus le temps de m'emmerder à faire semblant d'être gentille, hein, comme quand je me force à dire à Nagui que ses baskets sont jolies, alors que bon, Catherine Bruno, je voulais jeter un coup d'œil, on en reparle plus tard. Regardez sous la table, hein. Non, moi, je pense que je serais une mamie Kaira. Je foutrais des coups de canne dans les genoux des jeunes, je serais là. Allez, feignasse, relève-toi, qu'est-ce qu'il y a? Tu vas le dire que c'était mieux avant l'invention du dentier lance-flamme? Ici, c'est mon banc, qui c'est mamie Jojo maintenant, hein? Bra, bra, bra. Voilà, j'ai un peu de ce genre de mamie. Et je serais obèse aussi. Oui. Bah oui, j'aurais lâché la rampe. À quoi bon être bonasse? Attendez, de toute façon, au cinéma, à partir de 26 ans, on nous file plus que des rôles de belle-mère aigrie ou de meilleure amie d'Annie Dupéret. Et François Berléand est déjà sur les deux créneaux, donc fuck la silhouette, hein. Voilà. En tout cas, c'est si je deviens vieille, tout ça. Voilà. Si je suis pas morte.
T'as encore le temps.
D'un grain de beauté dans le cou, d'un grain de maïs dans mon assiette ou d'un grain de folie dans mon cerveau. Bref, je réfléchissais à tout ça, et quand on est arrivé à mon adresse, elle m'a pris la main, elle m'a dit, profitez tant qu'il est temps, carpe diem. C'est ainsi que je rentrais chez moi et pensive en me demandant, mais bordel, quel âge a Daniel Morin?
Bravo, bonne question.
Excellent.
La bande originale.
La bande originale de Catherine Yégel et Bruno Puzulu, en attendant qu'ils soient au théâtre de l'Atelier à partir du 19 avril pour Votre Maman à 19h. Nous avons pris quelques dates de vos carrières et rejoint peut-être des expériences communes ou des dates communes en tout cas. Par exemple, Bruno Puzulu, en 1967-69, vous écoutiez... Je ne sais pas si vous écoutiez ou vous entendiez Pavarotti. C'est la musique familiale, ça, Pavarotti?
Oui, papa...
Parce que vous êtes né à ce moment-là, vous êtes né en 67.
Oui, papa italien, il écoutait souvent cette chanson-là et je l'entendais la chantonner. Donc,
Ce qui fait que, pardon, il faut dire Puzulu ou Pozzulu?
Pozzulu.
Pozzulu, d'accord. L'accent tonique...
Ouais, le U, c'est où en italien?
Oui, c'est pour ça que je pose la question.
Ouais.
Mais vous acceptez maintenant que tout le monde dise Puzulu?
Ou ça vous pique? Bon, non, à la française ou à l'italienne, peu importe.
Ouais, italienne, il faut mettre l'accent tonique au bon endroit. Vous êtes né en Normandie, vous avez grandi dans un petit village. Est-ce que l'image de tout petit déjà, je voulais être comédien et réel?
Non, je voulais plutôt jouer au foot ou...
Faire de la boxe.
Ou faire de la boxe. Mais bon, bah, au foot, très vite, on se rend compte si on est fait pour une carrière ou pas. Et puis ensuite, j'ai un frère instit qui a fait du théâtre amateur. Et puis, je suis allé le voir jouer avec mes parents et ça m'a plu.
Ouais. Mais en fait, le lien, est-ce que c'était les combats? Parce que vous aimiez la boxe, c'était la grande mode des Bruce Lee.
Des Bruce Lee, j'allais voir tous les Bruce Lee au cinéma.
L'ancêtre de Jackie Chan, pour situer ceux qui ne voient
voilà,
pas qui est Bruce Lee.
L'ancêtre.
La dame du cinéma me donnait les photos, les affiches. Et c'est aussi en allant au cinéma que j'ai pris goût à ce métier, certainement, oui. Donc, grâce à mon grand frère et à Bruce Lee. C'est pas mal.
Aujourd'hui, vous pratiquez la boxe?
Oui, je fais de la boxe thaï avec mon entraîneur, Guillaume Kerner, oui, dans le 18e, ouais, toujours.
Ça vous défoule? C'est
Ouais, j'en fais
comme un
vieux, hein, maintenant, en faisant attention de ne pas me blesser, mais c'est quelque chose que je fais depuis l'enfance, donc je continue en me faisant croire que je suis encore capable.
Et c'est vrai que si ça marche pas pendant une première, vous la pratiquez sur votre partenaire. J'ai entendu ça. Hein.
C'est d'une violence dingue.
Oui, parce qu'on a le droit au coude, au poing, au genou, au pied, ouais, et puis au corps à corps, aux projections.
Oula, c'est du free fight.
Vous avez compris, Catherine?
Faut pas avoir un trou, hein, Catherine.
J'ai eu un frère. Je connais le point faible.
Oui, mais j'ai toujours une coquille en répétition.
Catherine n'a pas dit où c'était. Ouais.
Catherine Yégel, en 1969, entre à la Comédie Française et vous écoutiez John Baez. Petite parenthèse sur John Baez, là c'est une reprise de Bob Dylan, ça s'appelle North Country Blues. Il y a un nouveau Bob Dylan qui arrive et ça sera demain la sortie de ce triple album qui s'appelle Triplicate de Dylan. Et ce soir à 21h, Mishka Assayas dans Very Good Trip vous proposera des inédits de ce nouvel album, trois en l'occurrence, que vous pourrez écouter sur Inter. Mais revenons donc à John Baez, vous aviez une époque...
J'ai fait 68, hein, excusez-moi.
Je vous en prie.
J'ai occupé le conservatoire. Le bureau du Dirlo et
vous avez manifesté. Vous saviez pourquoi vous manifestiez?
J'étais à Faune, tout le monde était à Faune. Bien sûr, je savais. J'avais un copain qui pensait mieux que moi, donc je le suivais. Et je disais, on vote quoi ? Et ce qu'il votait, je le votais. Quoi. Mais après, bon, on était tous un peu politisés quand même.
Non mais j'entends, mais est-ce que la jeunesse de 68 qui manifestait avait un véritable idéal, savait exactement ce qu'elle faisait, ou c'était un mouvement, comme vous dites, de foule, et finalement c'était une mini-révolution, on foutait le bordel, c'était drôle.
Il y avait quand même évidemment un idéal de liberté, enfin rendez-vous, vous n'avez pas connu, mais de Gaulle c'était quand même la chape, voilà, et d'indépendance, enfin des idées de gauche, pardon, on a le droit de le dire.
Ouais, c'est pas un gros mot, si toujours peut, pas.
Voilà, et particulièrement même aussi dans le monde de la culture, il y avait quelque chose à faire avancer et à dépoussiérer. Et donc John Baez, vous avez choisi celle-là, mais c'était aussi une parole de liberté.
Oui, des chansons à texte comme toutes celles de Dylan, absolument. Voilà. Oui. Protest song, comme on les qualifiait. Vous êtes resté 40 ans à la Comédie française.
Oui.
40 ans à la Comédie française. Oui. Au départ, c'était...
C'est une sorte de monument historique, là, vous vous rendez compte.
J'ai l'impression. Ouais, non, mais c'est 40 ans, c'est très impressionnant.
C'est
cher
à la visite, maintenant.
C'est la troisième fois que tu dis 40 ans, arrête.
Parce que c'est, je pense qu'il y a dû y avoir aussi des moments de doute. Il n'y a pas eu que du plaisir à la Comédie française.
Écoutez, s'il n'y avait pas eu que du plaisir, j'en serais parti. Il y a bien sûr des moments forts, des moments moins forts. C'est dans une vie professionnelle, c'est normal. J'ai des spectacles qui vous emballent, d'autres on se dit bon, je le fais, mais c'est pas terrible. Enfin bon, bref.
Ça dépend des rôles qu'on vous donne.
Ça dépend des rôles, ça dépend du metteur en scène, ça dépend de pas mal de choses. Mais moi, je suis toujours resté en pensant si ça me plaît pas, je m'en vais.
Et c'était un rêve que d'y rentrer quand vous étiez au conservatoire, vous ?
Non, pas du tout. Non, pas du tout. J'ai même demandé. Qu'est-ce que mon père m'a engueulé d'ailleurs ce jour-là.
Vous avez hésité à rentrer à la Comédie française.
André Claveau t'a engueulé aussi.
Oh ben non, c'était fini heureusement. Mais j'ai demandé 8 jours de réflexion à l'administrateur.
Ah ouais. En termes de motivation, c'est sûr
et
qu'ils
l'ont... Et puis après, quand on m'a proposé le sociétariat, je l'ai refusé.
Vous voulez rester pensionnaire ?
Ben parce que je ne voulais pas signer 20 ans. Et je suis resté 40 ans. Mais ce n'est pas pareil.
Oui, je comprends.
Signer 20 ans, je trouvais ça artistiquement, humainement, je ne savais pas quel serait mon désir, ni le leur. Mmh. Et donc, à cause de moi, les statuts ont changé. Ah.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que maintenant, quand vous êtes nommé, c'est 5 ans. Ce que je trouve artistiquement juste. Mmh. C'est 5 ans renouvelables.
Comme la Légion.
Vous l'avez faite ?
Oui, bien sûr, évidemment, ça, c'est ganache.
C'est ce que je reconnaissais ça un petit peu au tatouage. Mais donc, c'est grâce à moi, c'est 5 ans, ce que je trouve mieux. Oui. Et à partir de 30 ans de maison, c'est tous les ans.
Ah, comme
pour
ça,
réfléchir, pour
pour être viré ou rester.
Mais ils vous ont viré.
Mais bien sûr qu'ils m'ont viré.
Et ça vous a fait de la peine ?
Sur l'instant, oui.
Et pour quelle raison ?
Mais Bruno aussi, moi je ne travaille qu'avec les acteurs virés de la Comédie française.
D'ailleurs, on est 3 virés.
Oui, d'ailleurs, on est 3 virés sur votre maman.
Mais c'est incroyable qu'ils vous aient viré au bout de 40 ans.
Une troupe.
Et pour quelle raison ils vous ont viré ? Parce que nous, extérieurement, c'est difficile de comprendre.
C'est incroyable.
Ça, ouais.
Mais je ne sais pas. Je crois, si on,
bah, si, on a dû vous dire quelque chose.
Non, on ne m'a rien dit.
Ah, c'est terrible.
C'est incroyable cette histoire.
On ne m'a rien dit, mais je crois que c'est parce que j'étais devenu doyen, pas par volonté. C'est parce que les autres étaient morts. Et vous savez, le doyen, c'est pas forcément celui qui a le plus de talent. C'est celui qui est là depuis le plus longtemps dans la maison.
Et on voulait pas de vous en doyenne, c'est quoi la responsabilité?
Je crois que c'est à cause de... Enfin, il y a toujours un côté un peu politique dans cette maison et j'ai une assez grande gueule.
Donc c'était perturbant pour
disons que je...
C'est pas maîtrisable.
C'était pas l'idéal de doyen mamie gâteau. Non, oui. C'était pas ça.
Et vous, Bruno, pourquoi la comédie vous a dit au revoir ?
Oh, c'est très... Alors, on a...
À cause de Johnny.
On a donné des prétextes de congé pour tourner, mais quand on demande un congé, on fait une demande. S'il est accepté, on le prend. S'il est refusé, on le prend pas. Mm-hmm. Donc c'est... Oh voilà, il y a certaines, il y a une ou deux personnes auxquelles je serrais plus la main à la Comédie française parce que ça a un sens de serrer la main à quelqu'un. Et puis quand ces personnes se sont retrouvées dans le comité, m'ont dégagé quoi. Bon voilà, mais la Comédie française, je l'aimerais toujours. Et puis j'ai été très blessé d'en partir, mais voilà, ça remet pas en cause la Comédie française qui m'a engagé la première, qui m'a donné du travail et vraiment, la maison, je l'aimerais toujours.
Et vous suivez le travail d'Éric Ruff en ce moment, qui est le patron du français
Ben oui, je reçois tout.
Vous allez voir les pièces.
Excusez-moi, je suis secrétaire honoraire.
Vous êtes d'accord. Voilà.
Excusez-moi.
C'est quand même bizarre, pardon, mais quand on n'est pas dans ce milieu-là comme nous, d'être pendant 40 ans dans une boîte, d'être viré sans trop savoir pourquoi on est viré, mais ça sent plus
un cabinet noir.
Ah non, je vous en supplie. Pas le cabinet noir, non.
Bon, allez, gris clair. Qui a décidé comme ça, en disant, bon, elle en doyenne, on n'a pas envie, donc on la vire. On vous explique même pas pourquoi ni comment. Il n'y a pas de rendez-vous préalable. Enfin, c'est pas un licenciement.
Et je jouais le soir.
C'est une violence.
Avec des membres du comité qui m'avaient viré. C'est pas facile, ça.
C'est incroyable. Et c'était quelle pièce? Parce qu'il fallait.
Ce qui est bien, c'est que.
Tartuffe, non?
Non. C'était les Joyeuses Commères de Windsor.
Ah ouais.
C'est génial.
En plus.
Et donc.
Non, mais il y a quelque chose. Je raconte ça parce que j'étais là, mais. Vous savez, moi, j'ai joué dans beaucoup de circonstances, comme beaucoup d'acteurs. C'est-à-dire malade, bien sûr, mais j'ai joué aussi le soir de la perte des miens, le soir. Voilà. On joue. Bon, cette circonstance-là, je l'ai vécue une fois, je parle d'être viré. Et j'étais quand même un petit peu en pilotage automatique, vous voyez ce que je veux dire. Et dans le rôle que je jouais dans ce spectacle, je jouais une nourrice et mon maître disait « Vous, je vous vire ». Et il faisait partie des membres du comité qui m'a viré. Et mon inconscient a parlé, je sais pas pourquoi. J'ai dit, ça c'est fait. C'était absolument pas dans mon texte. Et je me rappelle.
Et là, vous avez été reviré pour faute grave.
Mais ça m'a échappé.
Ça a dû le pétrifier sur scène de vous entendre répondre ça.
Comment on devient sociétaire honoraire d'un établissement qui vous a licencié? Comment il justifie cet honneur-là? Oui, mais enfin, donc.
C'est pas un honneur.
D'un côté, on vous vire, de l'autre côté, on vous nomme sociétaire honoraire. Enfin, c'est bizarre, non?
Parce que si vous êtes nommé sociétaire honoraire, ce qui ne peut pas être le cas de Bruno.
Trop jeune.
Non, c'est pas ça. C'est qu'il n'est pas passé sociétaire. Si ils me demandent, ce qu'ils ont déjà fait, mais non. je peux rejouer dans la maison. Comme honoraire.
Et donc, ils vous l'ont déjà demandé?
Oui, mais j'ai dit non.
Ça sera toujours non, la réponse à cette question?
Ah, je préfère vendre des slips. Non.
Donc c'est, là, c'est plus une question de rôle ou de partenaire.
Ça a fait mal. Ouais. La dernière fois que j'ai joué, j'ai regardé le plateau en me disant, c'est la dernière fois que t'es là. J'ai fait... C'est un petit peu, comment vous dire... C'est comme un appartement de famille. Mmh. Et soudain, vous quittez cet appartement et vous fermez pour la dernière fois la porte. Vous aimeriez pas y retourner, quoi.
En 1988, Catherine Yeagel était dans La vie est un long fleuve tranquille. Jouer dans ce film avec un énorme succès populaire et professionnel aussi, puisqu'il y a eu la reconnaissance des prix de vos pères, en l'occurrence avec des Césars, et je crois qu'il y en a eu 4 qui ont été remportés par ce film. Je parlais du film.
Oui.
Le cinéma est venu à vous. C'est vous qui êtes allé à lui. Est-ce que c'est un agent qui vous a proposé ce rôle? Comment et pourquoi vous n'étiez pas allé au cinéma plus tôt?
Parce que j'avais pas d'agent.
Il faut un agent pour être au cinéma.
Oui. J'avais pas d'agent, je n'en avais pas besoin. Et je me souviens très bien, je faisais une pièce de Coltès à Nanterre avec Chéreau. Mmh. J'avais pris mon congé. Non, même pas. C'était coproduit par la Comédie Française. Et j'étais donc pas en congé. Et Dominique Besnard, qui était un copain depuis longtemps, était l'agent d'un des acteurs du spectacle, des Coffets. Et il est arrivé, il m'a dit, t'es génial et tout ça. Enfin bon, je vais pas l'imiter.
Ouais, c'était pas mal quand même.
Bon, ça, je très très bien le faire. Mais elle était formidable et tout. Je dis, eh ben oui, ben alors prends-moi. Il m'a dit, quelle bonne idée. Et voilà. Et c'est avec Dominique, qui maintenant n'est plus agent, mais producteur, comme vous le savez. C'était mon premier agent et c'est lui qui m'a
permis d'avoir ce rôle dans La vie est un long fleuve tranquille.
Oui.
D'accord, très bien.
Voilà.
1990, vous rentrez, Bruno Puzulu, au Conservatoire National d'Art Dramatique, et là, vous écoutiez l'excellent Celentano. I want to know. I want to know. Il a le truc, lui. Hein. Ah, il a le truc. Non dice niente. I want to know. I missed the ride. Il faut quand même rappeler que Adriano Celentano est une énorme star en Italie. Énorme.
Mais pas seulement. Hein. On le connaît quand même.
On le connaît pour Prison Call in National Cusol, pour I Want to Know, pour Stand By Me, mais Preghero, qu'il avait fait aussi beaucoup de succès. Ça fait longtemps qu'il ne chante plus. Il est devenu animateur télé, très politisé.
Où il chante encore? Il va encore à San Remo au festival.
C'est vrai?
Ah oui, il chante encore, mais ses albums aujourd'hui sont assez noirs. Contrairement à tout ce qu'on entendait avant, où ça bougeait un peu, et sont assez noirs.
Ah ouais, il avait une dégaine, il a toujours une dégaine incroyable.
Il a presque 80, hein, Celentano, aujourd'hui. Hein,
J'adore ce mec.
Il est beaucoup plus âgé que Johnny.
Qu'avez-vous appris au Conservatoire National d'Art Dramatique? Est-ce qu'il y a un professeur qui vous a transmis quelque chose d'essentiel encore aujourd'hui dans votre carrière?
Oui, c'est Philippe Adrien, que j'ai eu pendant 3 ans au Conservatoire. Ça paraît bête, mais il nous disait toujours que parler sur scène, ça n'allait pas de soi, que c'était pas, s'il n'y avait pas de mécanique là-dedans. Et donc ça m'est toujours resté, ça, que les mots doivent pas sortir comme ça, de manière mécanique. Ça paraît comme ça rien, mais il nous le disait d'une certaine façon et ça s'est inscrit en moi.
À propos de parler, dans votre manière de jouer, tous les deux, vous avez été aussi bien sur des planches que devant une caméra. On ne porte pas la voix de la même manière quand on a un micro ou quand on fait de la post-synchro que lorsqu'on est au théâtre. De la difficulté de porter sans fausser son jeu. Catherine, comment ça marche?
Ben, c'est quand même un entraînement, ça s'appelle la technique. Et ça ne s'acquiert pas.
Mais vous êtes
des fois.
Mais c'est
la
essentiel.
Comédie française, par exemple, c'est un des plateaux les plus difficiles que je connaisse.
Pour l'acoustique?
Il a une acoustique épouvantable. La Comédie française, c'est vrai. Et l'Odéon, malheureusement, depuis les travaux, l'Odéon, avant, quand on allait y jouer, c'était les vacances, parce qu'il y avait une acoustique géniale. Et depuis les travaux qu'ils ont fait à l'Odéon, maintenant, les spectacles, les acteurs ont des micros.
Oui, c'est vrai que c'est sonorisé.
Et oui,
la majorité.
Et ça, c'est terrible.
Dedans.
Et ça, pour vous, c'est pas où sont les grands acousticiens, mais ça manque au théâtre.
Et ça, pour vous, c'est la mort du théâtre que de mettre des micros aux comédiens.
Je suis pas folle. Je trouve qu'il y a une telle émotion dans la voix en direct. Il y a une telle émotion, même dans maintenant Avignon, tout le monde joue avec des micros. Il y a une telle émotion même dans le plein air. Ça rejoint vraiment la naissance du théâtre. Il y a quelque chose, même si on s'en casse la voix, il y a une telle beauté que je regrette un peu cet emploi du micro à chef un peu systématique maintenant.
Nous avons demandé, et à la gentillesse de venir, au docteur Agnès Sarraud, gériatre à l'hôpital de Vaugirard dans le 15e arrondissement de Paris, qui a publié « Mes parents vieillissent », un livre en 2004. Comment aider en fait les parents à bien vieillir? C'était ça votre approche?
Voilà, tout à fait. La première version, je l'ai sortie en 2001, alors que j'étais enceinte et immobilisée sur mon lit.
Aux éditions Bonneton.
Voilà, je feuilletais le livre de Laurence Pernoud pour comment bien élever ses enfants. Et je me suis dit, finalement, il n'y a rien sur les personnes âgées. Je suis gériatre et je me rendais compte que les familles étaient extrêmement démunies. Et donc, j'ai eu cette idée d'écrire ce livre à ce moment-là.
Alors, la bonne nouvelle, c'est de savoir que la durée de vie augmente pour les hommes comme pour les femmes. L'autre nouvelle, c'est justement cet accompagnement. Est-ce que c'est dans la nature que le relais se fasse par les enfants? C'est aux enfants à nouveau d'aider les parents comme les parents ont aidé les enfants?
Alors, on n'est pas forcément dans une société où c'est une évidence. Ça l'est de moins en moins, sans doute, hein, par nos modes de vie. Mais oui, je pense quand même que quand nos parents sont malades, deviennent dépendants, qu'ils ne se rendent pas forcément compte de toutes les difficultés qui surviennent, notre rôle d'enfant est quand même d'être à côté d'eux et de les accompagner sans être trop envahissant non plus, parce que je pense qu'il faut leur laisser une part de liberté.
Oui, mais on revient un tout petit peu les parents de nos parents, c'est-à-dire qu'on les aide à faire des gestes de la vie quotidienne. Certains les aident ses parents à manger, à faire sa toilette, à s'habiller, à se coiffer. Enfin, c'est une présence. Est-ce que c'est d'ailleurs, au-delà de la morale, on a compris que c'était évidemment quelque chose de bien à faire, mais c'est pas toujours possible quand on a des métiers, des occupations et qu'on n'est pas présent.
Tout à fait. Dans ces cas-là, d'ailleurs, c'est souvent un enfant hein, sur lequel tout repose, parce que les autres sont éloignés, ne sont pas présents. je pense que voilà, chacun fait comme il peut. Et c'est pour ça que c'est nécessaire aussi de savoir s'entourer, de se faire aider par des professionnels.
Et puis, alors, qui donne quoi comme conseil ? C'est autant psychologique que matériel et physique comme problème ?
Ah oui, je pense que la prise en charge psychologique et notre préparation aussi psychologique à affronter le vieillissement de nos parents, c'était absolument essentiel.
L'accepter déjà ?
L'accepter, puisque ça nous renvoie aussi à notre propre vieillissement, à notre finitude, tout à fait. Je pense qu'il faut trouver la juste distance, ne pas être trop envahissant, leur laisser encore, ce que je disais tout à l'heure, une part de liberté, sinon ils étouffent et ils refusent en fait toutes les aides qu'on peut leur proposer. Et en même temps, il faut être là et sans trop devenir, je pense, les enfants, enfin les parents de nos parents. Voilà, mais parce que voilà, je pense que chacun doit rester à sa place, en tout cas dans le mode de relation, même si on devient aidant matériellement.
Alors on le voit dans le cas de la pièce, même si la maladie n'est pas nommée.
Moi, j'ai bien fait de venir éléguer votre plateau là ce matin.
On l'a
Ne pas, madame, moi ça va.
On l'a invité pour vous, Catherine.
Oui, mais je se sens bien. Où sont les béquilles?
On l'a invité pour vous, c'est parce que c'était le sujet de la pièce, justement, et que nous voulions aller en profondeur dans ce sujet. J'espère ne pas vous gêner.
Mais non, tout va bien.
En tout cas, dans cette pièce de Jean-Claude Grimbert, la maman, interprétée par Catherine Hegel, est en plus malade. Ce qui rajoute une difficulté supplémentaire à l'accompagnement de son fils, joué par Bruno Puzulu.
En fait, tant qu'on n'est pas malade, on vieillit bien. On voit d'ailleurs dans les médias, à la télévision, on voit des personnes âgées qui ont un vieillissement extrêmement réussi, qui sont très performantes encore intellectuellement.
Je prends très bien.
Non, c'est pas toi, on parle pas de toi, ça va encore.
Bon, c'est vrai que certaines se font peut-être aider par la chirurgie esthétique.
C'est ce que j'allais dire, c'est pas toujours très naturel.
Catherine qui fait le geste de « ils se font tirer là, bon !»
Mais ces personnes-là sont quand même autonomes.
Comment personne?
Arrête, tu fais semblant, arrêtez. Tu dis qui, toi, Nagui, tu fais comme si tu savais pas.
Dis-le!
Mais non!
Non, on n'a pas le temps.
Pardon, docteur.
Mais c'est très tentant, hein. Moi, vous croyez que je ne fais jamais ce geste quand je me vois dans le miroir.
Arrêtez de le faire. Arrêtez de le faire, parce que c'est monstrueux.
Parce qu'on dit, non, c'est vachement mieux.
Non.
Ah, bah si, c'est mieux.
Mais non, c'est pas mieux.
Tout ce qui tombe, là.
C'est la vie.
Ah bah oui, d'accord, c'est la vie.
Ça va, Nagui,
attends,
Nagui.
C'est pas rigolo, hein, quand même.
À la télé, vous avez un nain dans le dos qui vous tire sur le cou. Alors, c'est très bien. Là,
et pourquoi pas, Catherine, vous pourriez très bien. C'est pas non plus...
Me faire lifter.
Pourquoi pas? Est-ce que ça serait un vrai
je
problème?
Je sais pas, j'ai pas l'orgueil. J'y arriverai. Quel naufrage, mais je continue.
Il y a donc 10 minutes, Agnès avait commencé sa réponse.
Oui, je voulais simplement dire que si on n'est pas malade, si on n'a pas une maladie comme la maladie d'Alzheimer ou d'autres pathologies qui nous rendent dépendants, normalement, on est autonome. Le vieillissement normal n'amène pas à la maladie et à la dépendance nécessairement. C'est parce qu'on est malade qu'on devient dépendant des autres.
Alors, il y a, comme dans cette pièce, une maison qui reçoit cette maman avec un directeur, des structures qui l'organisent. Est-ce que de plus en plus, justement, les personnes n'assumant pas cette responsabilité d'accompagnement, je ne sais pas quel mot employer, mais réussissent à convaincre leur papa ou leur maman d'aller dans une maison ou les placent dans une maison? Je ne sais pas, parce que je trouve ça un peu violent comme mot. Oui, c'est triste, oui.
Il faut savoir que la majorité des personnes âgées, heureusement, vivent à domicile. Elles sont 9% après 75 ans à être dans un établissement pour personnes âgées. Et après 90 ans, elles sont à peu près un quart de la population. Donc la majorité est à domicile. Celles qui vont...
Un quart de la population après 90 ans
Après 90 ans.
Est à domicile.
C'est moi qui fais une erreur.
Je voulais juste comprendre.
Non, c'est un quart qui est placé dans une structure d'hébergement pour personnes âgées.
D'accord. Et 75% restent à la maison.
Oui.
Depuis 90 ans. D'accord.
Tout à fait. Ce n'est pas la majorité. En fait, celles qui vont vers ces structures comme les EHPAD, les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, c'est bien celles qui sont les plus malades, les plus dépendantes, soit physiquement, qui sont souvent presque grabataires, soit intellectuellement, parce qu'elles ont une maladie de type d'Alzheimer.
Ou soit abandonnées par les enfants qui ne veulent pas s'en occuper.
Ça peut arriver, oui. Et puis, il y a beaucoup de gens isolés. Il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui n'ont plus personne autour d'eux.
Mais un gros défaut, c'est que c'est très cher.
Ah, il faut le financer.
Donc c'est très cher.
C'est très cher, c'est une source de profit parfois aussi, puisque c'est coté en bourse et ça rapporte beaucoup d'argent.
Voilà,
une bonne partie des EHPAD, il faut le dire. Quand même.
Ils sont cotés en bourse.
Bien sûr, il y a eu des financiers qui ont investi dans les. Bah, évidemment, ça rapporte énormément d'argent, ça coûte très cher. Et puis
les chambres sont vite dégagées.
Et puis exactement, exactement. Il y a un renouvellement. La durée de vie, il faut le savoir. Hein. Elle est, je dis pas de bêtises, 2 ans et demi.
Hein? Oui, 2 ans.
Hein? Voilà, c'est ça. Ans. Quand vous rentrez dans une maison, vous savez que la moyenne de survie, si j'ose dire, c'est 2 ans et demi.
Oh, ça veut dire que ça fait mourir prématurément cette histoire ou quoi?
Bah oui.
Non,
ah oui.
Non, mais enfin,
on y rentre parce qu'on ne va pas bien.
Si. Oui, alors d'accord. Mais alors, si on était resté à la maison, vous pensez qu'on l'espérance de vie aurait été plus longue?
Ah
ou
oui.
Alors,
pas
c'est vrai que rentrer dans ce type
docteur
d'état...
Albert, oui. Oui, oui.
Non, non, mais on va quand même demander à notre docteur.
Par exemple, si Catherine rentre aujourd'hui.
Mais elle ne sera pas acceptée. Elle est trop bien.
Alors, regardez, ça dépend. Nagui, normalement, il veut faire 2 ans à France Inter. Regardez,
c'est la troisième année. Vraiment, docteur Sarro, vraiment. Donc, l'espérance de vie, elle est plus courte si on va dans ces EHPAD. Ou si on reste à la maison,
alors,
dites-nous.
J'ai pas une étude à vous montrer
sur ce sujet. Oh, mais pas de documents.
Vous êtes gériatre,
c'est sûr
donc
que
vous
c'est
savez.
Un, que c'est, la,
c'est important pour les gens qui écoutent.
On perd ses habitudes, on perd son cadre de vie, on perd tous ses repères. Parfois, les gens étaient dans la même maison, le même appartement depuis 40 ans, 50 ans. Donc oui, c'est un véritable...
Choc psychologique.
Oui, c'est un véritable choc qui doit être accompagné. Et c'est vrai que quand on rentre aujourd'hui dans ces fameuses EHPAD qui représentent 75% des établissements pour personnes âgées, donc c'est des établissements pour des personnes dépendantes, c'est vrai qu'elles sont à un moment de leur vie où elles ne vont pas bien médicalement. Et donc, oui, elles ne vont pas vivre longtemps, malheureusement.
Mais je crois aussi que c'est une question de personnel. Ouais. Ce n'est pas, c'est pas voilà, simplement...
Mais ça, François Fillon est très attentif à ça, on l'a dit.
Ça et la culture, tu peux y aller.
Oui, on peut y aller.
Ah, il lâche rien, Catherine.
Oh ben non,
merci.
Parce que c'est scandaleux. Parce que c'est vrai qu'il y a un manque de personnel dans ces maisons médicalisées.
Dire,
hein. Et qu'il y a des femmes qui s'épuisent la nuit et qui ne peuvent pas donner du temps à des vieilles personnes pour la toilette, pour bavarder, etc. Et la réponse de Fillon m'a profondément choqué.
Ah, vous n'êtes pas la seule à avoir été choquée par cette réponse, oui. Le docteur Agnès Sarro était notre invité. Merci, docteur, d'être venu nous éclairer et nous alarmer un tout petit peu quand même. Faut appeler un chat, c'est donner conscience à ceux qui ont la chance d'avoir encore leurs parents âgés, de s'occuper d'eux, de penser que voilà, c'est la moindre des choses, c'est une dette, mais au sens positif du terme, une reconnaissance.
Oui, je pense qu'il faut privilégier leur maintien à domicile, même si on prend quelques risques, le risque qu'ils tombent, le risque voilà, que la personne qui commence à perdre la tête se perde dans le quartier.
Mais maintenant, il y a plein de petits appareils connectés aussi.
Oui, il faut les utiliser, voilà. Il faut s'en aider.
Il faut construire des plain-pieds, des maisons bien plates, pas d'escaliers.
Tu vas faire architecte en plus, toi. Agnès Sarro, notre docteur qui était venu.
Si vous avez de l'argent à investir, vous avez compris. À la maison de retraite, vous allez faire du pognon.
C'est appelé ça l'or gris, m'a soufflé Jean-Baptiste Bissier. On voit bien, Daniel Morin, que le vieillissement de nos parents peut faire peur. On ne sait pas forcément comment se comporter. En plus de ça, ça nous renvoie sur notre propre mort, comme le disait le docteur tout à l'heure. Donc c'est humain. Et puis peut-être que des gens n'acceptent pas.
Le chacal
pas.
Nom de Dieu, monsieur Guy, vous êtes tellement génial. C'est gênant, ça m'excite. J'ai envie de chialer de bonheur, chialer de surprise, chialer d'émerveillement, que nenni. J'ai envie de chialer, ça c'est vrai, mais plutôt de tristesse, voire de désolation. Punaise, quand je pense que l'année n'est pas finie, que je vais encore devoir me taper vos fadaises pendant 3 mois.
Putain, 3 mois.
Oui, 3 mois, Jean-Philippe Manœuvre.
Mais fuck the fuck, Dany, c'est l'enfer.
Ah, vous aussi, vous avez du mal avec Nagui.
Mais non, c'est avec toi que j'en peux plus.
Comment ça?
Mais tu m'emmerdes avec tes questions à la con. Voilà, c'est dit, c'est fait.
Je croyais que vous n'aimiez pas Nagui.
Non, Nagui, je le méprise musicalement. Il n'y connaît rien, il en fait des caisses. Mais humainement, je le kiffe. Il a toujours sur lui de la superbe et du poppers.
Ah, merci, Jean-Philippe. Bon, j'en étais au moins. Oui, il ne faut pas se sentir déstabilisé par l'avancée vers la mort certaine de nos proches. Primo, parce qu'on ne peut rien y faire. Hein. Il n'y a même plus les Tibéri pour les faire voter une fois décédés. Deuxio, parce que ça nous épargne quand même des situations gênantes, allant de la flatulence incontrôlée de mamie en plein dîner au discours de Pépé prenant le retour de la peine de mort et sa nostalgie des colonies en plein petit-déj. Et tertio, et pour moi de loin la plus valable, la mort de ses parents, si elle les rapproche de Dieu, elle nous rapproche aussi de l'héritage. Voilà. Comme quoi, une fois encore, mon pauvre monsieur Guy, eh ben, vous avez dit...
N'importe quoi.
Merci. La bande originale, Guy, sur
France Inter.
On a parlé de Bob Dylan tout à l'heure. Ce soir, il sera, et vous pourrez entendre des inédits dans l'émission de Mishka Assayas, Very Good Trip. Mais c'est bien d'en écouter.
Vous avez qu'à lui parler dessus, ne
Je fais ce que je veux sur Bob Dylan.
D'accord.
How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist?
Le triple album Triplicate de Bob Dylan sortira demain et vous en aurez en exclu des inédits ce soir dans l'émission de Mishka Assayas. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez avec Leïla Kadoumoudani.
Bonjour à tous.
Joséphine Drey.
Bonjour.
Daniel Morin.
Bonjour Daniel.
Albert Gouy. Nos invités, Catherine Egel et Bruno Pedu.
Bonjour.
Yes. Votre maman, la nouvelle pièce de Jean-Claude Grimbert. Vous aviez vu d'ailleurs les autres pièces? Je crois qu'il y en a eu 3 ou 4 autres pièces de Jean-Claude Grimbert.
Bah, j'en ai joué, moi.
L'être ou pas?
Non, ça, l'être ou pas, je l'ai vu avec Pierre et Rousseau.
Ah non, pardon, c'était deux, oui, c'est deux garçons.
Mais ouais. Moi, j'ai joué avec Arditi et Moi, je crois pas. Et j'ai joué Maman revient, pauvre orphelin. Mm-hmm. Et j'adore Grimbert, je le suis depuis des années. C'est un homme merveilleux.
Et vous travaillez avec lui, il vient sur les répétitions.
On lui a demandé de venir.
Il y a quelques modifications de texte que vous souhaiteriez, justement, par rapport à ce rythme-là. On rappelle la situation avant de parler du texte, pour ceux, justement, qui nous rejoignent. Une maman est dans une maison qui est censée s'occuper d'elle. Voilà, une maison médicalisée qui est censée s'occuper d'elle. Elle perd un tout petit peu la tête. On ne sait pas trop pourquoi. On ne sait pas trop même si elle la perd réellement ou si elle fait genre.
Ça l'arrange.
Je perds la tête. Voilà. Mais elle règle ses comptes avec ses voisines de palier ou de chambrée. Son fils, joué par Bruno Pudu, la maman étant jouée par Catherine Egel, son fils vient lui rendre visite. C'est le début des quiproquos. Elle ne sait pas trop si c'est son fils, si c'est le directeur, ou en tout cas où et si elle joue encore une fois ce jeu-là. Nous, on voit ce moment de flottement, sans doute une forme de désespoir ou de tristesse de la part du fils de ne pas être reconnu par sa propre mère. Le directeur, lui, traitant les affaires, étant... C'est comme un numéro, c'est une chambre, c'est comme ça, il y a un règlement, elle a payé, on a payé pour ci, on a payé pour ça, avec une espèce de rigueur, de rigidité. Voilà. Après, elle va tout faire pour d'abord marquer son territoire, et puis quitter ce territoire, s'enfuir, et retrouver sa maman, sa sœur, qu'elle a perdue, puisqu'on est, on se replonge là dans la Deuxième Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, parce qu'on espère qu'il n'y en aura pas une troisième, la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire fuir, partir, et partir dans la campagne. Les gendarmes ont beau la chercher, on ne la trouve pas. Erreur même de cette maison médicalisée qu'il a laissée... partir et qui n'a pas su.
Je pense qu'avec les médicaments, vous voyez, la nuit.
Elle était shootée et qu'elle bouge pas.
Que tous les petits vieux foutent la paix, mais elle, non.
Ce texte-là est un rythme et un sens de l'humour malgré la tristesse du propos. Il y a des sourires, il y a des rires, comme vous le disiez.
J'espère qu'il y en aura.
Ah non, il y en a. Déjà, la lecture, il y en a. Donc j'imagine avec le jeu, ça ne sera qu'encore plus fort. Quel est donc ce travail? C'était ça la question d'il y a un quart d'heure. Ce travail avec Jean-Claude Grimbert.
Il vient quand on lui demande et puis on peut comme ça.
Oui, enfin, dit
non,
comme
mais,
ça.
Non, mais il impose pas sa présence.
D'accord.
Je veux dire, il y a des auteurs, certainement, qui viennent à toutes les répétitions et qui disent non, c'est comme ça, c'est pas comme ça. Alors, lui, il est venu quand on lui a demandé de venir, il nous laisse faire, et puis on peut lui demander quelques précisions sur le texte, et puis il a regardé comme ça un filage en disant des petites choses, mais jamais en nous disant « moi je sais, c'est comme ça que ça joue ».
En tout cas, lui, il est content. Bon, il était content. Il était content.
D'accord.
Lui, nous a rassuré.
Il l'a écrite, cette pièce, avec des intentions. Nous, on a eu le texte sans les didascalies, donc on ne sait pas.
Mais vous voyez, pareil. Bon.
D'ailleurs, il n'y avait pas écrit la mère,
oui,
le fils.
Oui, voilà, il n'y a pas le nom des personnages.
Non, non plus. Ben, moi, j'ai à part une où je me suis trompé, où je croyais que ce n'était pas moi, j'ai tout fait au pif, au stabilo, en me disant ça, ça doit être moi, ça doit être moi, ça doit être
moi. Mais
on
entend facilement en lisant, on entend très rapidement les voix et la répartition entre les trois personnages.
Vous voyez, Nagui, par exemple, ce qui était intéressant avec Jean-Claude, quand il est venu tout à l'heure, vous avez dit, il y a un rythme.
Ouais.
Justement, il y a aussi énormément de
silence.
Ouais. Et lui nous l'a dit. Il nous a dit, attention, de pas aller trop vite. Faut pas que ça soit mécanique, justement.
Faut marquer des temps.
Alors, c'est vrai qu'à la lecture, on a l'impression que c'est un ping-pong. Pam, 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 pam. Mais il faut pas que ce soit qu'un ping-pong.
Bon, ça, on imagine aussi que c'est le travail de la mise en scène.
Oui, aussi.
Qui va s'occuper de ça, vous faites des propositions, j'imagine aussi, avec votre expérience, vous avez des envies.
Ah ouais. Ah oui, on n'est pas des instruments.
Votre maman, à partir du 19 avril à 19h du mardi au samedi, matinée le dimanche, Catherine Yégel, Bruno Puzulu et Philippe Fretin, tout
et
ça dans
Paul
une
Rias scène... aussi,
le gendarme. D'accord. Ouais. Tout ça dans une mise en scène de Charles Torgeman, la nouvelle pièce de Jean-Claude Grimbert qu'on vous recommande vivement parce que déjà sa lecture, c'est appétissant. Et puis quand on voit qui va porter cette pièce, on n'a aucun doute. Voici l'humeur de Daniel Morin.
Aujourd'hui est un jour un petit peu spécial pour les amateurs d'art. En effet, ce 30 mars, c'est le jour anniversaire de Vincent Van Gogh, qui aurait eu aujourd'hui 164 ans, s'il n'était pas mort.
Ouais, il serait jamais mort à 164 ans, il serait encore là.
164 ans. Van Gogh, artiste majeur.
Oh. Mais on s'en fout de Van Gogh.
Comment ça va, François?
Ça va super, mon Dani.
C'est quoi votre problème avec Van Gogh?
Van Gogh n'a jamais été un grand artiste. Il a barbouillé des peintures, mais c'est tout. Il a jamais fait de musique.
Non, c'est vrai.
Alors, arrêtons de parler de ce tocard.
Vous savez, je disais ça parce qu'aujourd'hui, c'était son jour anniversaire.
Eh bien, moi aussi, j'ai un jour anniversaire à célébrer. L'anniversaire d'une vraie grande artiste.
Qui ça?
Aujourd'hui, dans le monde entier, on célèbre les 49 ans de Céline Dion. Vas-y, ma grande, régale-nous. Ouh, 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 ça pique, mais c'est bon. Mon Dieu, quel organe, quelle puissance. On dirait une corne de brume. Ça pique encore plus, c'est tellement fort, ça me fait saigner les tympans. Quelle beauté, quelle émotion. Je vais vous faire une confession intime. C'est sur cette musique que je suis devenu homosexuel. Que c'était bon.
Je peux savoir ce qui vous plaît chez Céline Dion?
Rien du tout.
Bah pourquoi vous l'écoutez?
Pour me rappeler qu'il faut que j'écoute autre chose.
Super, merci François.
Salut.
Alors en ce moment, dans le nord de la France, se tient un procès qui fait un peu froid dans le dos. Le procès d'un boss d'un groupe de fachos appelé le Clan des Loups Blancs, un type ultra-violent qui frappait les étrangers et aussi les membres de sa propre
bande. Vive les fachos!
Non mais ça va pas, qu'est-ce qui vous arrive?
Faut dire la vérité, les fachos, ils sont beaux, ils sont bien coiffés, ils sont bien habillés, ils ont des bottes bien cirées, ils font du sport, ils font attention à leur corps.
Mais ça vient d'où cette fascination?
C'est un peu gênant.
Allez, on est entre nous.
Je vous donne un indice.
Ah oui, je comprends.
Oh, j'ai honte.
Mais non, faut pas avoir honte, c'est comme ça, l'amour ça vous tombe dessus et parfois, on sait pas à qui on a affaire, c'est pas marqué dessus qu'on est facho.
Il avait quand même une croix gammée tatouée sur les fesses.
Ah oui, c'est un bon indice. Et ça s'est passé dans quelles conditions?
Je me souviens pas, c'est mon drame. J'étais trop ému.
Ouais, trop ému, moi aussi. Mais merci pour cette évocation très personnelle. Personnelle, et c'est vrai, il est gênante à la fois. Allez, on enchaîne avec cette brève aussi insolite qu'animalière. Hier en Indonésie, un jeune porté disparu avant-hier a été retrouvé, mais retrouvé dans le ventre d'un python de 7 mètres de long. Un véritable cauchemar de se faire gober comme ça.
J'adore le python.
Toujours là, vous.
En 1999, j'ai gagné la Coupe de France de disco de Palavas les flots, grâce à une paire de plateformes boots, moitié piton, moitié plastoc. C'était des cuissardes qui s'arrêtaient à la lisière de mes fesses du sif. La foule était comme hypnotisée. J'ai gagné la coupe en dansant sur du C'est Jérôme.
Waouh, du C'est Jérôme, vous étiez ému, j'imagine.
Mais tellement, j'ai reçu la coupe des mains d'un jeune homme très troublant, un grand gars baraqué qui avait un tatouage bizarre sur les fesses.
Vous avez fait quoi après?
Il m'a ramené à mon hôtel. Je l'ai invité à prendre un verre.
Vous avez écouté de la musique?
Oui.
Quoi?
Ça. Oh mon Dieu, c'était mon beau facho. Merci Dani. Excuse-moi, je file à Palavas les flots.
Ah, l'amour, Nagui, vous en connaissez un rayon, à demain.
Merci, Daniel. Merci, Daniel. Ça s'appelle
La bande originale avec Nagui.
Catherine Yégel et Bruno Puzulu sont nos invités pour parler de Votre Maman, la nouvelle pièce de Jean-Claude Grimbert qui se jouera au théâtre de l'Atelier à 19h. Mais d'abord, voici le brouillon de culture de Leïla Kadoroudadi pour nos invités.
Un brouillon de culture, un petit bol d'air pour tous les deux, histoire d'apprendre à mieux vous connaître. Et on commence par un son pour vous, Catherine Yégel.
J'aime écrire. Je pense que si je n'avais pas été absorbé par ma vie politique, j'aurais aimé consacrer partie de ma vie à construire une œuvre littéraire. En avais-je le talent ? J'en avais en tout cas le goût.
Margaret Thatcher.
Vous l'avez reconnu, absolument, Margaret. Plutôt François Mitterrand. Ah oui. Pourquoi lui ? Parce que vous l'avez rencontré, c'était en 93. À cette époque-là, Jacques Lassalle, qui était administrateur de la Comédie Française, s'était fait mettre sur le bas-côté du chemin par la droite. Et vous aviez, à l'époque, décidé d'intervenir. Vous êtes dit, je vais le voir.
Ah oui, vous comprenez mieux pourquoi j'ai été virée maintenant.
Ceci explique cela.
On est parti avec quelques camarades. J'avais déjà demandé à Libé, Ration, d'ouvrir son journal à nos revendications. Et ensuite, j'ai demandé carrément un rendez-vous à Mitterrand, que nous avons obtenu. Nous étions quatre. Jean-Luc Boutet, Jean-Luc Bidault, Muriel Mayette et moi. Et on est allé, on a été reçu par Mitterrand.
Et Roland Bertin.
Et oui, pardon, Roland, que j'oublie. Merveille, Roland Bertin. T'es arrivé dans la golf pourrie de Muriel Mayette, où on ne pouvait pas sortir par les portes avant, qui étaient bloquées. Mais on a du crapahuté jusqu'à l'arrière, et puis on était reçu par Mitterrand. Et on est venu lui demander la prolongation du contrat de Jacques Lassalle. Mais c'était l'époque de la cohabitation. Mm-hmm. Et il nous a dit, malheureusement, je ne peux pas parce que c'est la cohabitation. Et avec un œil diabolique, il nous a dit, mais si vous voulez, je peux faire traîner. Et là, on lui a répondu que ce n'était pas l'intérêt de la maison de rester sans direction. Et donc, on a commencé à se lever, à dire, excusez-nous, on vous a dérangé pour rien. Il nous a regardé, il nous a dit, vous êtes pressé. Oh ben, il dit, non, on ne veut pas vous déranger. Alors, on peut parler théâtre. On est resté une heure avec lui, une heure à parler théâtre, à parler littérature, à parler musique. Excusez-moi, c'était exceptionnel. On est sortis, on était tous, absolument tous, amoureux de lui. Mais vraiment, je ne sais pas si une occasion comme ça pourrait se passer de nos jours.
Et vous avez continué à garder des contacts avec lui après rendez-vous pour continuer à parler littérature ?
Non, c'était un moment exceptionnel, mais... Mais c'était tellement fort, quoi. Tellement fort. On est reparti dans la golf pourrie. Il nous a dit au revoir sur le perron de l'Elysée, un peu comme aux actualités, vous voyez. Et on avait l'impression que...
C'est la maison de retraite quand tu pars et tu laisses un petit
Non, mais comme tu vois le président de la République sur le perron...
Il dit au revoir aux comédiens, quoi. Le chariot de Thespis qui partait. Il nous a dit au revoir de la main. C'était fantastique.
Et les cinq, vous avez été virés?
Non, Roland Bertin, il est parti. Muriel Mayette est devenu administrateur. Jean-Luc Boutet est mort et Jean-Luc Bidault a démissionné.
Et c'est un peu fou d'imaginer comme ça un chef d'État qui peut prendre sur une heure de son temps pour avoir une conversation.
C'est pas fou. Ça devrait être le cas. Mm-hmm. La culture en France est quelque chose de très important.
Ça pourrait être le ministre de la Culture.
N'est pas assez pris en compte. Alors pas du tout par la droite, un peu mieux par la gauche, mais n'est pas assez pris en compte. Parce que la culture, on dit à quoi ça sert, etc. Ça rapporte énormément d'argent, la culture, excusez-moi.
Absolument.
Et c'est une source d'emploi fantastique. Je vous embête là, Nagui, j'arrête.
Pas du tout, j'étais en train
de... Il parle à son ami imaginaire. Là.
J'étais en train de demander en régie qui était le ministre de la Culture à l'époque, pour savoir. Voilà.
C'était Lang.
C'était déjà...
Mais non, c'était la cohabitation, vous dites.
Alors attendez, ça devait être Douste Blasi, un truc comme ça.
93, oui. J'avoue que je m'en souviens pas. Ben voilà, c'était juste un petit entretien comme ça avec le président de la République, c'est pas mal. C'est un beau souvenir, j'imagine.
Non, c'est pas chic, c'est exemplaire.
C'est un beau souvenir.
Mais c'est rare, me reconnaissez que c'est rare, c'est pour ça que...
Malheureusement, trop rare.
Et par le passé, vous avez jamais eu l'occasion de discuter ainsi avec un autre chef d'État ?
Alors il y avait une tradition à la Comédie Française quand j'y suis entré, qui était irrespirable, c'est d'aller chaque année jouer un petit acte digestif. Il ne fallait pas que ça dépasse 20 minutes.
À l'Élysée ?
à l'Élysée devant tout le gouvernement.
C'est la cour du Roi Soleil, quoi.
Exactement. On passait par les cuisines, on partait en costume de la Comédie Française. Mm-hmm. On passait par les cuisines, on attendait.
Dingue, ça.
C'est vrai. Et c'était supprimé à cause de moi, je vais vous expliquer pourquoi. Et on attendait, bah ouais, déjà. Et on attendait qu'ils aient fini de dîner, qu'ils passent au fumoir avec les cognacs et les gros cigares pour aller sur une petite estrade ridicule entre deux plantes vertes, jouer un petit acte digestif. Mmh. Bon. Et après, on rencontrait le président et le chef du protocole et on nous donnait à dîner. Et ensuite, on repartait.
On mangeait les restes, en fait.
Non, on nous donnait, on mange très correctement là-bas. Bon. Et puis, une année, comme c'était pas des gens très cultivés à l'époque, ils ont choisi l'île des esclaves de Marivaux. Mmh. En disant, ça va, c'est court, c'est Marivaux, c'est charmant, ça pétille. Or, dans l'île des esclaves, il y a un personnage que je jouais qui s'appelle Cléantis et qui est une frondeuse.
Qui revendique.
Et qui revendique l'égalité pour tous, qui revendique le sort injuste qui est fait aux pauvres, à la domesticité, etc. Et moi, j'avais tout le gouvernement devant moi. Et elle avait une grande tirade. Alors, je voyais le plaisir de leur baldinguer, sans changer un mot, cette tirade de Cléantis dans la figure. Et le lendemain, l'Élysée a appelé la Comédie Française en disant que c'était terminé et que nous...
L'acte digestif,
c'était gratuit,
passé,
ce qu'on faisait. Vous voyez, c'était vraiment le... On n'était pas payé.
Oui, c'est curieux comme démarche.
C'était un honneur.
D'accord. Rendons, à propos d'honneur, rendons au ministre de la Culture de l'époque son poste. C'était Jacques Toubon, le ministre de la
Toubon. Culture. Ah, ben voilà, je ne sais plus. Parce qu'ils ont changé souvent.
Il paraît.
Il y avait un petit défilé. On poursuit avec vous, Bruno Puzzolo. Un son pour vous.
Je ne vous ai pas dit regardez, je vous ai dit écoutez. Entendre. Entendre. Et ce quelque chose, c'est un des moments. Un des quatre moments de l'amour.
C'est un extrait d'Éloge de l'amour de Godard, dans lequel vous avez le premier rôle, Bruno Puzzolo. Et en fait, quand vous avez rencontré Jean-Luc Godard, il vous a choisi pour plein de raisons, mais une des raisons est assez étonnante. Est-ce que vous vous souvenez ?
Mais il avait vu un film de Jean-Claude Guillet que personne n'avait vu, qui s'appelle Les Passagers. Il m'a dit, bah, je voudrais vous rencontrer pour parler avec vous, mais c'est pas pour jouer un rôle, parce que...
Alors, bon, bah... Ce à quoi Dominique Besnard a répondu.
Et Johnny est arrivé.
Non, parce que, oui, vous avez tous les deux des talents d'imitateurs.
Et donc, Bruno, qu'est-ce qu'il vous a...
Et donc, on a parlé, puis quand je suis rentré chez moi, il n'y avait pas les portables à l'époque et tout, et il m'a laissé un message en disant, bah, comme au tennis, la balle est dans votre camp, j'aimerais bien travailler avec vous. Voilà, et puis on a commencé ce tournage.
Il vous a trouvé honnête. C'est aussi une raison.
Il est honnête. Puis il m'a fait lire un texte. Puis il m'a dit quand vous lisez, vous rajoutez pas de un, de e, de pour faire naturel. Alors j'aime bien ça.
Et c'est aussi pour ces raisons-là que vous êtes devenu ami avec Philippe Noiret. On n'a pas eu l'occasion d'en parler, mais ça me faisait mal au cœur de pas en toucher un.
Suite à un film, hein, Père et Fils avec Philippe Noiret. Après, on a écrit un bouquin tous les deux. Ouais.
Je me suis régalé.
Ça fait partie des personnes qui comptent. Voilà. Avec Catherine d'ailleurs. Avec Catherine, elle a toujours été là dans ma carrière, depuis le conservatoire, depuis qu'elle m'a mis en scène deux fois à la Comédie Française. Et c'est aussi grâce à elle que je suis dans Votre Maman. Donc c'est toujours une femme qui a été là tout le long de ma carrière.
Et je finis par un mot peut-être, Catherine, sur ce que Bruno vient de dire.
Ben, écoutez, merci, cette Catherine. Fidélité à la sens. Oui. Je crois, c'est une de mes qualités, je pourrais finir casting. Je sais reconnaître le talent des autres.
Eh bien, je finis avec un cadeau pour chacun d'entre vous. Pour vous, Bruno, je vous offre Divine Comédie aux éditions Flammarion de Gaël Tchakaloff. Pendant 6 mois, cet éditorialiste, ce journaliste et écrivain, merci, a suivi 12 candidats à la présidentielle. Je ne vais pas vous les citer, je pense qu'on les a suffisamment en tête à l'heure qu'il est.
Ils sont 11.
Oui, mais bon, ça remonte à quelques temps où il y avait encore certains qui étaient un peu plus présidentiables que d'autres, on va dire comme ça. Elle s'est collée à eux, il s'est collé à eux, a suivi tous leurs déplacements et il nous fait un portrait intime de chacun d'entre eux. C'est une sorte de divine comédie, comme le titre l'indique, avec toujours un petit regard en biais sur les coulisses du pouvoir. Et pour vous, Catherine Niégel, je vous offre Tanguy Viel, article 353 du Code pénal aux éditions de Minuit. C'est un roman absolument génial.
Ouais. Pour éviter la garde à vue.
Non, pas du tout, parce que l'histoire est absolument géniale. Tanguy Viel a reçu quelques prix récemment pour ce roman qui est vraiment très étonnant. C'est l'histoire d'un homme qui va devenir un meurtrier alors qu'a priori sa vie ne l'y poussait pas. Il était employé dans un arsenal, il était amoureux et un jour il a été licencié. Le chômage, le divorce. Il touche une petite somme, 400 000 francs à l'époque, et il se dit « je vais investir, je vais acheter une petite maison au bord de la mer, ça va me faire du bien pour mon orgueil ». Et c'est un mauvais investissement, là encore, un nouveau naufrage pour cet homme-là. Et c'est l'histoire
ça
de...
Ça remonte le moral, ton
truc. Oui, mais c'est très très bien écrit, c'est très intéressant de voir comment il y a ce mécanisme-là dans une vie, comment les choses peuvent s'enchaîner, malheureusement, et comment ça peut arriver à chacun d'entre nous.
Bien sûr.
Et le suspense n'est pas dans ce qui se passe, puisqu'il va tuer l'agent immobilier, et c'est le face-à-face avec le juge. L'explication avec ce juge, et c'est un bouquin absolument fascinant et sidérant.
Merci.
Merci, Leïla.
C'est quoi le titre, pardon ?
C'est article 353 du Code pénal.
Je note.
Catherine Yégel et Bruno Puzulu sont donc à l'affiche de Votre Maman aux côtés de Philippe Frotin, de Paul Rias et la mise en scène de Charles Torgeman. Une maman dans une maison médicalisée avec les visites régulières de son fils interprété par Bruno Puzulu et systématiquement... C'est un peu voilà, c'est aussi la chute dans la vie de cette dame interprétée par Catherine Yégel, parce que systématiquement il y a une nouvelle catastrophe, un nouvel incident, un nouveau problème et de nouveaux quiproquos, et puis aussi c'est très loufoque, c'est rieur, c'est moqueur, c'est souriant, mais c'est sincère et c'est profond de cette histoire touchante de Votre Maman, signée Jean-Claude Grimbert, à partir du 19 avril au théâtre de l'Atelier à 19h. On a oublié d'en dire quelque chose avant que nous nous quittions, ou parce que je ne voudrais pas que vous partiez avec un sentiment de zut, on n'a pas dit ça.
Non, ça va. Simplement rappeler qu'on rit beaucoup.
Oui, ce que j'ai dit, c'est pour ça que je parlais de loufoquerie.
Voilà,
et de...
voilà. Ouais. C'est ça, c'est exactement ça, la loufoquerie, comme vous dites.
Des excuses à présenter, Daniel.
Oui, bien sûr, désolé pour Catherine qui a découvert ce matin qu'après avoir bossé à l'œil quand elle était enfant, elle se retrouve aujourd'hui nettement moins bien payée que Bruno Puzulu. Ah, ouais, y a des destins comme ça. Ça me rappelle le mien. Désolé pour Volkswagen, Catherine a balancé, eh oui, elle a balancé ce matin dans l'émission, que dans les années 90, il existait un modèle pas fonctionnel du tout, son nom, la Golf pourrie. Et désolé, non, pas désolé, mais merci, merci cette fois, merci à Nagui pour ce matin, cette exceptionnelle leçon de théâtre. Comment jouer la rapidité, le ça ping-pong dans un discours.
Mais non. Directeur, oui, quoi, où, là, parce que...
C'est génial, c'est énorme, vous êtes mon modèle, monsieur Guy. Félicitations, chapeau bas.
Mais tu sais, Catherine Yégel a dit, elle sait reconnaître le talent. C'est pour ça que je ne jouerai jamais, mon gars. Je laisse ça à ceux qui savent faire. On a été ravis de vous accueillir. Merci, Catherine Yégel.
Merci beaucoup. Merci à vous.
Bruno Puzulu, Votre Maman, je le redis, au théâtre de l'Atelier à 19h et peut-être en tournée ensuite, parce qu'il n'y a pas que Paris quand
ça,
même.
Ça, je ne sais pas. On verra. Ça dépend si on le mérite.
Ça dépend.
Dépend du résultat de l'élection, peut-être aussi.
Probablement.
Oui. Est-ce qu'il restera du fric ?
Demain, nous recevrons Pierre Ménès, qui a été
greffé.
Il va mieux. Il le raconte dans un livre sur la grève d'organes. Il a été sauvé.
Vous avez des thèmes très gais en ce moment.
Mais écoutez, c'est la vie.
C'est la période gérontologue.
Mathilde Seigné et Franck Dubos seront là lundi pour parler de Boule et Bille 2. Vous voyez, comme ça.
Ça va, oui. Là, voilà,
ça va. Et l'euthanasie chez les chiens.
Le sourire sera au rendez-vous. Tout de suite, des carnets de campagne avec Philippe Bertrand. Ça, c'est souriant. Bonjour. Oui.
Boule et Bille, c'est pas nécessairement marrant. Hein.
Si, c'était drôle.
Voir les boules, je sais pas.
Ah, d'accord. Ouais. Ah. Trop bien.
Si vous cherchez une salle pour la tournée de la pièce, ouais. Il y a la salle des fêtes de mon village.
Oh, merci.
C'est où ?
Non, je vous en prie. À Igné-le-Duc, grande capitale culturelle mondiale, enfin, dans le futur. Et ça me fait rêver quand même, les présidents de la République avec lesquels on pouvait parler littérature et culture. Ouais. Peut-être que le prochain, il faudra parler Mikado. Et là, je vous dis pas.
Ou pas.
Ou pas.
Merci Philippe, bonne émission.
Salut les amis.
Ciao.